Et voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Moins de communication et des actions plus ciblées, le gouvernement précise ses intentions pour l'opération Mayotte Place Nette. Elle a débuté hier dans un certain scepticisme des habitants.
Un no man's land d'un kilomètre de large à Gaza, des images satellites éclairent la stratégie israélienne contraire au droit international.
L'écrivaine guadeloupéenne et indépendantiste Maryse Condé sera-t-elle bientôt la deuxième femme noire au Panthéon ? Les demandes se multiplient depuis son décès, signe de l'intérêt croissant pour cette reconnaissance de la nation. Marguerite Caton, votre question du jour.
Qui finance les Jeux Olympiques de Paris ?
Ce sera juste après ce journal. Des résultats plutôt que des promesses, c'est ce que demandent les habitants de Mayotte où a débuté hier l'opération Place Nette. 1700 policiers, gendarmes et militaires ont été déployés dans le 101e département français. Un an après l'opération Wombuchu, dont le bilan est contesté à la fois par les résidents et par les associations de protection des migrants. L'objectif du gouvernement est le même, lutter contre l'immigration illégale et l'habitat insalubre. Mais cette fois, la méthode est un peu différente, Thomas Pinaroli.
Le gouvernement veut être plus précis. Fini donc les interventions sur des dizaines de kilomètres. Chacune se limite à une petite zone ou un quartier. La ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux.
Quartiers qui vont être ciblés durant les 11 semaines qui viennent, de façon extrêmement répétée, comme un marteau enfoncerait un clou jusqu'à ce qu'il arrive à son objectif.
C'est ainsi que le secteur d'Oujani, où sont intervenues les forces de l'ordre hier à Mamoudzou, va à nouveau être démantelé à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. L'objectif étant de détruire les 270 abris repérés par les autorités. Le plan est aussi plus complet. Une centaine de détectives spécialisés dans la lutte contre les réseaux illicites épaulent les agents de terrain.
On a été en capacité aujourd'hui d'identifier 60 individus qui se sont livrés à des actions violentes, qui se sont livrés à des trafics, qui se sont livrés à un certain nombre de malversations, qui sont identifiés, donc pour lesquels les gendarmes et les policiers interviennent sur place en ayant des fiches très claires sur ceux qui doivent appréhender.
Toutes ces opérations se veulent enfin plus discrètes. Le ministère et la préfecture ne communiquent aucune information. Une décision saluée par Yasmina Aouni, porte-parole du collectif de citoyens mahorais Force Vive.
La première phase de l'opération Wombuchu a été extrêmement médiatisée. Peut-être que c'est aussi ce qui a contribué à la réduction de son efficacité. Si vous voulez, à partir du moment où les criminels apprennent qu'ils vont être attaqués, tout de suite, ils se mettent en ordre de bataille, ils se rangent prêts à riposter et ils s'en prennent à la population, mais dans la terreur la plus absolue.
Pour protéger au maximum la population de l'île, les autorités promettent cette fois-ci de reloger les habitants des bidonvilles détruits, à condition qu'ils soient en situation régulière.
Et pour ceux en situation irrégulière, le gouvernement envisage toujours de supprimer le droit du sol à Mayotte. Une loi constitutionnelle et une loi programme seront présentées en Conseil des ministres le mois prochain. Le gouvernement en pleine quête d'économie, l'assurance maladie a annoncé hier que le doublement de la franchise médicale prévue initialement pour le mois de juin était avancé au 15 mai. Lors d'une consultation chez le médecin, le reste à charge pour le patient passera alors de 1 à 2 euros. Autre changement, la fin de l'aide de 6 000 euros versée aux entreprises lors de l'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation. Une aide mise en place pendant la crise Covid en juillet 2020 pour soutenir l'emploi des moins de 30 ans et au passage la formation continue. 4 ans plus tard, toutes les prévisions ont été dépassées. À partir du 1er mai, cette aide sera donc réservée uniquement aux apprentis en formation initiale. Un choix redouté, Estelle Caméraire, par les petites et moyennes entreprises.
Les aides mises en place en 2020 ont favorisé l'image de l'alternance auprès des entreprises. En supprimer une partie a choqué Stéphane Hett. Il est vice-président de la Confédération des PME, la CPME, en charge de la formation.
Le contrat de professionnalisation, qui est le deuxième volet de l'alternance, est tout aussi utile et important. Pour nous, il ne devrait pas être question de supprimer les aides de l'un comme de l'autre. Pour nous, c'est très clairement un mauvais signal qui est envoyé.
Les formations coûtent cher et le prix du travail sans ces aides serait un vrai frein pour les entreprises.
Je crains que certaines entreprises renoncent à embaucher sous cette forme-là et finalement embauchent un jeune déjà qualifié ou alors se reportent sur le contrat d'apprentissage, mais le public n'est pas le même. Donc on risque d'avoir aujourd'hui un public qui est celui du contrat de professionnalisation qui va se trouver en quelque sorte marginalisé, en tout cas avec des difficultés plus importantes pour accéder à nouveau au marché de l'emploi.
La CPME trouve que ces annonces n'ont pas de sens. Elles vont même à l'encontre de la politique de l'emploi que mène le gouvernement, comme le rappelle Isabelle Recotillet, économiste du travail et de l'éducation.
Ce sont des personnes qui étaient demandeurs d'emploi, donc effectivement avec une difficulté d'accès à l'emploi. Et le fait de pouvoir se former et d'obtenir une qualification reconnue, c'est un vrai facteur d'accès à l'emploi. C'est un moyen de financer un retour à l'emploi et donc de réduire aussi les dépenses de l'assurance chômage.
La chercheuse pense que les économies peuvent se faire autre part que sur ces aides précieuses. Selon les dernières données de la DARES, on comptait fin janvier 2024 90 700 personnes en contrat de professionnalisation.
La fin de cette aide représente donc un demi-milliard d'économies pour cette année, soit la moitié des coupes décrétées pour le ministère du Travail. À moins de deux mois maintenant des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est hissé en troisième position des intentions de vote, une ascension qui fait aussi de la tête de liste Place Publique PS une cible. Son camp a indiqué hier avoir décelé une campagne de désinformation provenant de comptes pro-chinois sur les réseaux sociaux. Mais les railleries se multiplient aussi dans la campagne. Ses adversaires, notamment à gauche, le visent désormais directement, Rosalie Lafarge.
Le risque, c'est de s'endormir le 9 juin en ayant voté Raphaël Glucksmann et de se réveiller le 10 avec le retour de François Hollande. Ça, c'est de la part de l'écologiste Marie Toussaint. Vous dites partout vouloir changer d'Europe. Vous n'êtes même pas capable de faire changer l'orientation de votre groupe sur les règles autoritaires. Lui lance le communiste Léon Desfontaines. Il prépare l'après Mélenchon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après Macron, tacle l'insoumise Manon Aubry. Va-t'en-guerre, intellectuel bobo, macroniste déguisé. Plus Raphaël Glucksmann s'installe dans le haut du tableau de ces Européens, plus le reste de la gauche cherche à le décrédibiliser. Et autour du candidat PS Place Publique, on commence à s'en agacer. Quand l'extrême droite RN plus Reconquête approche des 40%, vouloir affaiblir le mieux placé pour représenter la sociale écologie, c'est une erreur et ça n'a pas de sens, dénonce son équipe, avant d'appeler chacun à ne pas se tromper, ni de camp, ni de campagne. Sauf que tous, à gauche, et pas seulement, regardent déjà au-delà et vers 2027, sans encore parvenir à se mettre d'accord sur l'interprétation d'un éventuel bon score de Raphaël Glucksmann le 9 juin. Une large avance de l'essayiste sur LFI permettrait-elle de déplacer le centre de gravité de la gauche, de remettre en cause l'hégémonie insoumise? Trop tôt pour répondre à ces questions, mais suffisamment tard pour confirmer, selon un pilier des insoumis, que l'union des gauches a quatre adversaires, les quatre branches censées la composer.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Les pays occidentaux font monter la pression contre l'Iran.
Les États-Unis et l'Union européenne annoncent de nouvelles sanctions dans les jours à venir. Durcir notamment les règles contre les drones iraniens, des appareils utilisés en grande quantité le week-end dernier lors de l'attaque menée contre Israël. Les Américains et les Européens espèrent ainsi rassurer les dirigeants de l'État hébreu, voire les dissuader de représailles synonymes d'embrasement régional. Des tensions qui n'ont pas changé la stratégie israélienne dans son offensive à Gaza, une stratégie de coupure avec l'élargissement de la zone tampon. Sur les images satellites de l'ONU, des experts ont identifié une bande d'un kilomètre de large dans cette zone. Tous les bâtiments ont été détruits, ce qui est une violation du droit international. Étienne Monin.
Les images satellites de l'ONU sont impressionnantes. Elles montrent une ceinture rouge au nord et à l'est de Gaza, d'un kilomètre de large, à l'intérieur de laquelle presque tous les bâtiments civils ont été détruits. Cela touche 4000 bâtiments. Ça s'est accéléré ces derniers mois et cela confirme la volonté de l'armée israélienne de créer une nouvelle zone tampon contre la frontière, avec un but défensif, dit Miri Eisen, colonel de réserve, directrice de l'Institut international du contre-terrorisme.
Il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'ils vivent à l'intérieur d'Israël, à 800 mètres de la frontière. Cette zone tampon, c'est pour stopper une attaque terroriste, rien d'autre. Ça donne du temps et de l'espace pour espérer empêcher ce type d'attaque.
On ne sait pas si cette zone tampon est provisoire ou permanente. Quoi qu'il en soit, elle entre en contradiction avec la 4e convention de Genève, estimée il y a déjà quelques semaines le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk.
Israël n'a pas justifié ces destructions massives de bâtiments civils. Je rappelle aux autorités que le transfert forcé de civils peut constituer un crime de guerre.
Avant la guerre, la zone tampon existait déjà. Elle était de 300 mètres. La nouvelle échelle d'un kilomètre empiète sur les bâtiments et sur les terres agricoles.
Et alors que la famine menace toujours la population gazaoui, l'ONU lance aujourd'hui un appel aux dons de 2,8 milliards de dollars, l'essentiel pour Gaza, le reste pour les habitants de Cisjordanie. La junte militaire au pouvoir en Birmanie annonce ce matin avoir transféré Aung San Suu Kyi dans une maison. L'ancienne chef du gouvernement était jusque-là emprisonnée après une condamnation pour trouble à l'ordre public. Impossible de dire à cette heure s'il s'agit d'une résidence surveillée ou d'une réduction de peine. Par ailleurs, le pouvoir birman dit avoir amnistié plus de 3000 prisonniers. Quels moyens pour la recherche polaire au Svalbard? C'est la question du jour dans cet archipel norvégien situé en pleine mer du Groenland. Il accueille aujourd'hui la ministre française de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, attendue de pied ferme à l'université la plus proche du pôle Nord, un lieu de recherche unique, mais où les moyens manquent, Oriane Laroumiguière.
C'est d'habitude le norvégien ou l'anglais qui prédomine dans les discussions au Svalbard, mais ce soir, autour de la grande table ronde de ce restaurant de Longyearbyen, tout le monde parle français. On se réjouit de la visite de la ministre, on trinque à la santé de la recherche polaire française, mais on s'inquiète surtout de son avenir et de son financement. Selass a 34 ans, il est ingénieur et s'apprête à rejoindre la station franco-allemande de Nyalesund.
Moi, ça m'attriste de voir qu'on puisse diminuer des budgets dans ces domaines-là. Peu de gens savent que l'Institut polaire français fait énormément avec très très peu d'argent. Et donc une coupe budgétaire dans l'Institut polaire français, je ne sais pas trop comment ils peuvent survivre en fait.
Pour la communauté scientifique du Svalbard, les nouvelles coupes budgétaires annoncées sont un signal très négatif. La glaciologue Heidi Sevestre habite à Longyearbyen. Pour elle, le message à faire passer à la ministre est clair.
J'aimerais qu'elle comprenne intimement que tout ce qui se passe ici impacte notre pays. Et aujourd'hui, il faut qu'on renforce beaucoup plus la solidité, les investissements qui sont faits dans la recherche polaire et la recherche polaire française. Parce qu'encore une fois, c'est le meilleur moyen de défense face au changement climatique et à l'érosion du vivant.
Quels moyens seront véritablement donnés à la recherche polaire française? C'est à cette question que la ministre devra répondre.
Oriane Laroumiguière, notre correspondante au Svalbard. Après Robert Badinter, Maryse Condé sera-t-elle la prochaine à faire son entrée au Panthéon? Les demandes affluent depuis l'annonce du décès de l'écrivaine guadeloupéenne indépendantiste le 2 avril dernier. Des appels révélateurs du symbole qui est devenu le Panthéon, où reposent désormais 75 hommes pour seulement 6 femmes, Chloé Leprince.
Maryse Condé, deuxième femme noire à entrer au Panthéon après Joséphine Baker. C'est ce que réclame un collectif de personnalités, parmi lesquelles on retrouve Aissata Seck, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, un ancien premier ministre du Mali, Eva Joly ou encore Jack Lang. Leur texte précédait de quelques heures l'hommage national qu'Emmanuel Macron a rendu à l'écrivaine guadeloupéenne lundi après-midi à la bibliothèque Richelieu à Paris.
Maryse Condé est dans ses mots. Sa méfiance envers les jugements définitifs. Son esprit de contradiction, son ironie.
Quelques mois plus tôt, c'était Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui avait tout de suite écrit par courrier à Emmanuel Macron pour réclamer la panthéonisation de Robert Badinter. Depuis la Révolution française, c'était une prérogative parlementaire, mais ce n'est plus le cas. Avec la Ve République, seul le président de la République peut désormais décider qui entre ou pas au Panthéon.
Et Chloé, c'est justement quand la panthéonisation devient un geste présidentiel que le rythme des entrées s'accélère.
Alors, pas tout de suite. Hein. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing panthéonisent plutôt moins de monde que leurs successeurs. Même le bâtiment était franchement en mauvais état dans les années 70. C'est Mitterrand qui, le premier, réhabilite le Panthéon. C'est sous Mitterrand, par exemple, qu'on prend le pli de diffuser systématiquement en direct à la télévision les cérémonies. C'est même pour ça que ça a lieu en début de soirée. Il y a plus de monde devant sa télé. Le rythme accélère encore après lui. Christine Albanel, conseillère culture de son successeur Jacques Chirac, dira même que c'est le geste de panthéoniser qui fait le président. L'historien Patrick Garcia, qui a travaillé dans les archives du ministère de la Culture, explique même qu'à l'élection de Jacques Chirac, on a très vite contacté la directrice du patrimoine pour plancher sur une panthéonisation rapide. Le candidat n'était même pas encore choisi, que l'idée du geste s'imposait. Alors si on a parfois l'impression que les demandes se succèdent à un rythme un peu frénétique, ce retour en grâce n'est pas seulement une question d'image ou de communication politique. 1 million de personnes visitent désormais le Panthéon chaque année, un tiers à moins de 26 ans. C'est aussi un des effets de l'accélération du nombre de panthéonisations.
La météo avec toujours des giboulées aujourd'hui sur le centre et le quart nord-est. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 2 et 11 degrés et cet après-midi de 10 à 15 en général et de 15 à 22 au sud. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Guillaume Erner.
Merci Valentin Bertrand avec dans quelques secondes la question du jour de Marguerite Caton qui finance les Jeux Olympiques de Paris.